Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Crash d'hélicoptère de l'armée française dans le nord du Mali et ses nouveaux rebondissements. La nouvelle dynamique de lutte contre la corruption au Mali. Les pratiques d'esclavage dans la région des Cayes, ce sont là entre autres les différentes thématiques qui seront abordées au cours du forum de la presse de ce soir. Nous sommes avec Oumar Badou Sribé, groupe Renouveau, Hassan Kone, site d'information notrenation.com, Badou Escoba du journal Carrefour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous avons plusieurs versions par rapport au crash d'hélicoptère français, justement en début de semaine, dans le Liptago Gourmand. Donc, l'État islamique revendique, tandis que l'État-major français demande. Alors, Hassan Kone, qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Bon, ce qui s'est réellement passé... Bonsoir d'abord, bonsoir à tous les auditeurs de la radio du studio Tamani et des radios partenaires. Bon, il faut quand même dire ce qui s'est réellement passé. On a un discours officiel, qui nous dit que deux hélicos français sont rentrés en collision lorsqu'ils étaient engagés dans des poursuites contre des djihadistes dans le Liptako Gourmand malien. Bon, ça c'est la version officielle et que 13 soldats français seraient morts. Donc, et quelques jours après, on voit que Daesh revendique effectivement les combats. Mais à l'analyse... On a tout l'air que la version officielle qu'on nous sert, que les avions sont rentrés en choc, et passe difficilement en réalité. Et même avant que Daesh ne fasse sa revendication, et nous de notre côté, on pensait que cet accident aurait pu être provoqué par une action extérieure. Et c'est ce que Daesh est venu confirmer. Donc, il sera très difficile peut-être à l'état actuel de la situation de dire voilà la vérité de ce qui s'est passé dans cette partie du Mali. Parce que c'est un peu l'histoire racontée par le chasseur, l'histoire de la chasse racontée par le chasseur. Quand tu n'y es pas, tu vas écouter le chasseur.
Alors, voilà. Badou Escoba, Hassan vient de nous faire savoir qu'il a des difficultés à croire en la version française justement du crash. Alors, quel est votre avis par rapport à ce crash, justement?
Bon, dans le contexte actuel, il est difficile de donner une seule version. Vous savez, il s'agit d'une armée, c'est un contexte purement militaire. Donc, un contexte militaire, si vous demandez à un civil, c'est vrai que nous sommes des journalistes d'investigation, mais si vous dites à un civil de donner son opinion par rapport à un tel crash, c'est extrêmement difficile. Mais ce que je peux dire, c'est que l'accident s'est passé le lundi soir entre un hélicoptère Tigre et un hélicoptère de transport Cougar au niveau de la zone des trois frontières. C'est vrai, les autorités françaises ont réagi. On a écouté François Lecointre qui a parlé effectivement d'une collision qui s'est passée vers le crépuscule. Donc, on connaît le bilan, 13 morts. Et parmi les 13 morts, quand même, il y a le fils de Jean-Pierre Bockel qui a été secrétaire d'État à la Défense, qui est un grand sénateur. Donc, pour vous dire à quel point vraiment le peuple français a été extrêmement choqué. Mais il faut attendre l'analyse complète des boîtes noires pour pouvoir vraiment tirer une conclusion. Donc, et au-delà de cela, quand il y a eu le crash, effectivement, il y a le président du Sénat français, Gérard Larcher, qui a automatiquement réagi, qui a condamné, qui a fermement condamné ce qui s'est passé. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en toute honnêteté, en toute objectivité, vous savez, les machines sont les machines. Et récemment, en Côte d'Ivoire, vers Kachola, il y a eu une collision entre deux hélicoptères. Donc, ça n'a pas fait l'effet d'une bombe, puisque nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique, dans un contexte de guerre contre le djihadisme. Les forces françaises sont présentes au Mali depuis 2013. Et actuellement, la présence française est de plus en plus décriée à cause vraiment du bilan mitigé que les forces françaises enregistrent, que l'AMINUSMA enregistre, que le G5 Sahel enregistre. Donc, par rapport à tout cela, donc, quand il y a de tels événements, donc, il y a forcément des doutes. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Alors, M. Sribé, vous venez d'écouter Escoba. Il estime qu'il est trop tôt, justement, de dégager une hypothèse, une version par rapport à cette situation. Quel est votre avis?
Bon, je crois que quand vous dites qu'il est trop tôt de dégager une hypothèse, ça, c'est sa position à lui. Et moi aussi, j'ai envie de douter comme mon confrère Hassan Kone, et envie de douter également comme ces millions de Maliens qui ne croient pas toujours à la version que, en tout cas, les autorités françaises ont donnée par rapport à cet incident qui a donné quand même lié à la mort de 13 soldats français. Mais au même moment, j'ai envie de me réserver aussi, puisque ces doutes-là ne s'appuient pas forcément sur des éléments palpables. Franchement, moi, je pense que l'air doit être, si vous voulez, à l'union sacrée, si vous voulez, autour des forces amies qui se battent aux côtés de notre pays. Le doute n'est pas permis dans ce sens que les autorités françaises elles-mêmes ont confirmé qu'il y a eu effectivement collision de deux hélicoptères de l'armée française qui ont donné naissance, qui ont engendré la mort de ces 13 personnes. Et cette thèse a été confirmée par l'armée malienne et les autorités maliennes. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer à entretenir les doutes par rapport à cette question.
Et que ce n'est pas parce qu'il y a une crise de confiance entre l'opinion publique et les gouvernants.
Bien entendu, il y a une crise de confiance. Cette crise de confiance n'est pas forcément lié à ce crash-là. Et elle a une autre origine, Badou l'a rappelé tout à l'heure. L'origine, c'est l'équation qui dalle. C'est l'équation qui dalle. Je pense que ce doute-là tire son origine au niveau de l'équation qui dalle. Tant que la France n'a pas aidé le Mali...
L'équation qui dalle, qu'est-ce que vous voudrez dire par l'équation qui dalle?
Toujours, l'armée malienne n'est pas qui dalle. On sait que l'opération Serval a aidé l'armée malienne à récupérer le centre du pays, à récupérer Gao, à récupérer Tombouctou. Mais une fois arrivé à Kidal, je crois que l'armée a été carrément stoppé par l'armée française. C'est ce qui a créé ce désamour entre les autorités, entre l'opinion française, si vous voulez, pas l'autorité, l'opinion française, les autorités françaises et une bonne partie de l'opinion malienne. Je pense que le désamour, on doit chercher l'origine du désamour au niveau de l'équation Kidal. Tant que la France n'aidera pas le Mali à résoudre cette question de Kidal qui devient sempiternelle pour l'opinion malienne, je pense que même si je ne le souhaite pas, même si un autre incident survient, les Maliens auront du mal à croire, peut-être ne serait-ce que pour faire mal à la France, quoi. Je pense qu'on est dans cette logique.
Alors, je disais tantôt au début de mon introduction que les groupes extrémistes aussi avaient revendiqué justement cette attaque. Est-ce qu'on doit, je pose cette question à Hassan, est-ce qu'on doit croire justement en ces groupes terroristes-là d'être à l'origine justement de ce crash?
Bon, moi personnellement, je crois chaque fois que les groupes terroristes revendiquent une action, parce qu'ils ne revendiquent jamais une action qu'ils n'ont pas commise. Jusqu'à preuve du contraire, on ne les a pas vus revendiquer quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc tout ce qu'ils revendiquent, c'est qu'ils sont effectivement impliqués. Ça, c'est quand même un constat. Donc dans un tel contexte, quand les groupes terroristes revendiquent que l'accident a été provoqué par une de leurs actions, il y a de fortes... Il faut vraiment croire à quelque chose de possible.
Hassan dit qu'il estime de croire justement à cette thèse des groupes extrémistes violents, Badou Escobar. Est-ce que vous croyez à cette thèse?
Moi, je ne crois pas du tout à la thèse des groupes terroristes, parce que les groupes terroristes font ce qu'on appelle de la propagande, de la surenchère. Donc, nous n'allons pas nous mettre à écouter les chants des sirènes.
Mais quand il dit qu'ils n'ont jamais revendiqué une attaque, commise.
Souvent, il arrive que les groupes terroristes revendiquent des actes qu'ils n'ont pas posés. Ça arrive fréquemment, ça arrive souvent. Et dans ce cas de figure, moi, je pense que les djihadistes n'ont pas cette technologie de pouvoir mettre en collision des hélicoptères de combat. C'est faux et archi-faux. Les djihadistes, s'ils disent ça, ils ont menti. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas cette technologie de pouvoir mettre en collision des hélicoptères, des hélicoptères de type Tigre ou Cougar. C'est des hélicoptères très performants et l'heure à laquelle les hélicoptères volaient, ces terroristes n'avaient pas cette technologie de pouvoir voir les hélicoptères en train de venir. Donc, ce que les terroristes ont dit, c'est faux.
Alors, M. Sulibé, les terroristes n'ont pas les moyens d'atteindre ces hélicoptères français. Pourquoi, est-ce que vous le confirmez?
Je ne sais pas pourquoi mes opinions sont en désaccord ce soir avec mon voisin, votre frère Hassan. Moi, franchement, la version, la doctrine des terroristes, c'est quand même de revendiquer en tout cas, la paternité de toutes les mésaventures de ses vis-à-vis. Je pense que c'est leur doctrine. La guerre de communication, c'est le fort des terroristes. Comme Badou l'a rappelé, ce n'est pas de la communication, c'est plutôt de la propagande. C'est pour faire peur.
Au-delà de la communication, Hassan a dit quelque chose d'intéressant quand même, en disant que chaque fois qu'il revendique une action, ça s'avère vrai.
Mais ça s'avère vrai, mais c'est une action déjà posée. Tout le monde sait que des hélicos ont fait les crashs. Oui.
Soyons prudents sur la question. Moi, je dis les groupes terroristes. Ils ne revendiquent pas ce qu'ils n'ont pas fait.
Mais ils ont même l'habitude de dire.
Que ce qui s'est passé, nous n'avons rien à voir avec ça. Ils ont l'habitude de le dire. On n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. Donc, de telle sorte que lorsqu'ils revendiquent quelque chose, il faut les prendre au sérieux.
Alors, ouais, c'est bien.
C'est pas seulement la propagande qu'ils font, hein. Ils ont quand même une éthique dans leur démarche.
Les groupes terroristes sont toujours revendiqués après l'action. Quand ils se démarquent d'une action, peut-être que c'est des actions qui ont... peut-être ont été tellement dramatiques que l'opinion s'est tellement émue par rapport à la question. Ils sont obligés, personne n'a envie de réclamer la paternité d'une action quand même qui a à la limite ému toute une opinion. Donc c'est un peu ça. Dire que les terroristes ont toujours revendiqué, ils n'ont jamais revendiqué des actions qu'ils n'ont pas posées. Moi, je pense qu'on doit vraiment continuer à vérifier, en tout cas.
Alors, continuer à vérifier. Voilà. Un dernier mot par rapport à cette question de revendication.
Quand il y a eu l'attaque de Boulkesi, quand les forces aériennes maliennes sont entrées en action, les terroristes ont dit effectivement qu'ils ont abattu des hélicoptères maliens. Et l'informatique a été formellement démentie après, et il s'est avéré que c'était faux. Moi, je pense que ne versons pas dans le jet des terroristes. Les terroristes, jusqu'à l'heure actuelle, n'ont pas cette technologie de pouvoir abattre des hélicoptères ultramodernes comme les hélicoptères Tigre Cougar. Donc, je dément formellement ce que les terroristes ont dit. Je peux poser ma main sur le Coran pour dire que les terroristes ont menti.
Merci, monsieur Koba. Voilà. Alors, ce crash intervient dans un moment quand même où la situation sécuritaire se dégrade au nord et au centre du pays. Est-ce qu'on doit croire à une escalade de violence, hein, monsieur Hassan?
Oui, bon, c'était prévisible. Hein. En réalité, vous avez vu, lorsqu'on était dans la période de la saison de pluie, les gens avaient cru que le phénomène avait pratiquement cessé. Mais vraiment, pour des stratèges militaires, les gens devaient comprendre que c'est une période qui n'est pas propice au mouvement des groupes terroristes. Et quand on allait sortir de cette saison de pluie, c'est clair qu'ils allaient faire monter la surenchère. Et à l'international, il y avait des services de renseignement beaucoup plus aigués qui avaient déjà attiré l'attention sur cette flambée d'actions terroristes dans le Sahel. Et c'est ce qu'on
a. Il n'y a pas de disposition prise par rapport à ces.
Bon, on a l'impression qu'on est un peu limité même dans notre défense. On est un peu limité même dans notre défense. C'est ce qui prouve en réalité le changement du dispositif même au niveau de l'armée malienne. Parce que c'est vrai, certains le disent, il faut qu'on couvre tout le territoire. Mais ça sert à quoi de couvrir tout le territoire en sachant qu'au premier choc, tu n'arrives pas à résister. Pourquoi ne pas te mettre dans des positions stratégiques où tu as plutôt une résistance certaine et même pouvoir prendre de l'avantage sur l'ennemi? Donc c'est ça, je pense qu'on est vraiment rentré dans la période où les actions terroristes vont se multiplier davantage et c'est à nos services de sécurité et de défense d'être extrêmement vigilants. C'est vrai, si on a la vigilance, on peut éviter certaines actions, mais si on n'est pas extrêmement vigilant, c'est clair que c'est une flambée qui a repris.
Alors, est-ce que les propos tenus par le ministre français de la Défense lors de l'interpellation justement, sont-ils des propos rassurants, M. Koba?
Oui, les propos de Florence Parly, c'est des propos qui doivent nous rassurer davantage. Vous savez.
Non, c'est oui, du ministre français.
De la ministre française des armées,
absolument,
Florence Parly.
Absolument.
Donc, en tout cas, ces propos peuvent nous rassurer dans la mesure où, vous savez, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Dans un contexte de guerre asymétrique, l'ennemi est invisible. Je vais vous donner seulement un exemple. Quand les militaires ont repoussé une attaque à Kona, quand les militaires sont allés dans leur base, les militaires n'ont trouvé que des motos et des habits. Les terroristes sont partout. Peut-être qu'ils se sont fondus parmi la population. Donc, quand vous avez affaire à une telle guerre, faisons énormément attention. Même l'armée malienne, si vous prenez l'armée malienne, c'est une armée qui se bat très bien. Mais nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Donc, il faut que nous puissions identifier les ennemis. Et pour identifier ces ennemis, ce n'est pas la France, ce n'est pas la MINUSMA. Il faut que la population elle-même collabore avec toutes les forces en présence.
Mais il y a une loi qui a été votée, la loi d'orientation militaire. Est-ce que cette loi a amené un changement?
Non, cette loi
n'a pas... Nous sommes dans cette guerre, il y a plus de... En tout cas, ce conflit armé, il y a plus de...
Cette loi n'a pas amené à changer. Si vous écoutez les propos du général Dayoro Dembele, le ministre de la Défense, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du palais de Bagadadi, vous vous rendez compte que les 1230 milliards pratiquement n'ont servi à rien, parce qu'il a dit que quand le camp de Burkassi a été attaqué, il n'y avait pas d'eau pour que les militaires maliens à Burkassi puissent avoir de l'eau. Ils ont dû faire appel à Barkhane. C'est à Barkhane qui a amené de l'eau et de la nourriture. Donc, ça prouve à quel point que le système sécuritaire est défaillant, faute de moyens, par rapport surtout au ravitaillement des militaires. À Burkassi, par exemple, il n'y avait pas de forage. À Indériman, il n'y avait pas de forage. C'est au cours d'une corvée que le militaire a été tué. On a bourré son véhicule danger explosif pour détruire le camp. Donc, pour dire encore une fois, pour que cette guerre soit gagnée, ça passe par nous d'abord. Moussa Sinko l'a dit ici au cours d'une conférence de presse. Il dit que pour que la communauté internationale puisse nous aider, il faut que nous-mêmes soyons sérieux d'abord. Moi, je pense que nous, nos dirigeants, doivent prendre la mesure du danger, mettre nos militaires dans les conditions. Parce que ce sont nos militaires qui seront en première ligne contre les terroristes. Les autres viennent en appui. Barkhane, MINUSMA, les G5C viennent pour nous appuyer. Mais le boulot sur le terrain, le boulot ne sera fait que par l'armée malienne. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut pas qu'on accuse à tort à travers ceux qui sont venus nous aider. Donc, sachons raison, gardez, ouvrons nos yeux. Nous n'avons d'autres ennemis que les terroristes. Il faut que tout le monde comprenne cela. Ne tombons pas dans le piège des terroristes.
Alors, le président Macron, hein, le président de la République française, a appelé ses voisins, notamment de l'OTAN, d'être beaucoup plus engagés au niveau du Sahel. Monsieur Hassan, est-ce qu'on peut considérer cet appel d'Emmanuel Macron comme un navet d'impuissance de forces françaises?
Oui, bon.
On va vous revenir.
C'est pas forcément un navet d'impuissance.
Il y a Barkhane, il y a...
C'est pas forcément un navet d'impuissance. J'ai l'impression que en 2013, lorsque l'armée française s'engageait au niveau de Kona dans cette opération, et la France avait vraiment sous-estimé l'ampleur du problème. Et moi, c'est ce que je crois. La France avait sous-estimé l'ampleur du problème parce que, écoutez, Barkhane avec 4700 éléments environ ne peut pas couvrir tout le Sahel. Et malheureusement, Barkhane a un dispositif sur le terrain où il a tendance à ignorer même le partenaire national. Moi, peut-être si Barkhane avait mis un dispositif stratégique de fonctionnement avec l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée au Niger, l'armée en Mauritanie, peut-être les 4700 soldats français environ allaient avoir de l'appui et on pouvait avoir un résultat et concret. Mais dans l'état actuel des choses, les 4700 soldats français dans ce vaste Sahel et que certains voient, certains me disent que ça fait combien, 4000 km de long sur une histoire de 1600 à 2000 km de large. Bon, je me dis que Barkhane tourner dans ces zones avec 4700 soldats pour poursuivre des djihadistes, rien n'est évident.
Alors, M. Sribé, on sait que l'OTAN, au sein de l'OTAN, une des forces les plus importantes, ce sont les États-Unis. Alors, on sait que les États-Unis sont même plus ou moins réticents par rapport aux interventions militaires au niveau du Sahel. Est-ce que cet appel d'Emmanuel Macron n'est pas voué à l'échec d'avance, quoi, quand il demande à ce que l'OTAN l'aide justement à être mieux présent, mieux engagé au niveau du Sahel?
Ok, je vais bien répondre à votre question, mais avant, je voudrais me rassurer si je n'ai pas été invité pour faire de la figuration ce soir.
Non, même pas, non pas.
Ok, d'accord.
Vous allez avoir la parole.
Ok, d'accord. Par rapport à votre question, dire que, bon, que l'appel d'Emmanuel Macron à l'OTAN de s'impliquer à la résolution de cette crise était un appel qui va tomber dans des oreilles de sourds. C'est tout à fait, tout le monde sait, c'est tout à fait, la réponse, elle est oui. Elle est oui quand on sait que l'implication des États-Unis par rapport à la résolution de cette crise-là, généralement, les États-Unis sont vraiment réticents par rapport à la résolution de cette crise, quoi. Je pense que l'OTAN a dévolu la résolution de cette crise à la France, si vous voulez, a confié la mission à la France. Aujourd'hui, on a l'impression que les terroristes sont acculés de toutes parts. Quand vous regardez la frontière au niveau du Niger, le Niger a resserré l'étau autour de, en tout cas, de ces terroristes. le Niger quand même joue vraiment au niveau de la frontière. Je pense que les choses bougent, les lignes bougent au niveau de la frontière Niger. Et au niveau du Burkina Faso également, je pense que le Burkina aussi est dans une logique vraiment de l'offensive à la limite. L'armée malienne aussi monte en puissance et l'armée française quand même est en train de faire le ratissage, et ratissage au niveau de ces deux frontières. Je ne sais pas d'où l'explication de ces attaques à répétition contre non seulement l'armée française et Barkhane pour pousser en tout cas nos amis, si vous voulez, l'armée française au Barkhane à quitter le Mali. Je pense que l'option des terroristes, c'est d'opposer l'opinion nationale à l'opération Barkhane. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes sont acculés jusqu'à dans leur dernier retranchement par en tout cas l'opération Barkhane. D'où ces attaques à répétition contre nos femmes, contre Barkhane aujourd'hui. Ce qui explique un peu aujourd'hui, quand vous regardez, on a l'impression que nos femmes sont attaquées tous les jours. Barkhane ne fait rien pour ces femmes.
Merci, M. Sidibé. 30 secondes, M. Kone, il y a d'autres thématiques.
Prudent. Les terroristes sont acculés, les terroristes sont poussés dans leur dernier retranchement. Soyons très prudents. Les races, si vous voyez que le président Emmanuel Macron essaie de déplacer le problème au niveau de l'OTAN, ça veut dire que les renseignements ont donné. Non, attention, les renseignements leur ont donné des informations très précises.
Merci beaucoup, merci.
C'est très précis, hein. Il faut être très prudent avec la question. Hein.
Merci beaucoup. Lutte contre la corruption, la vague d'arrestation se poursuit. Alors, M. Koba, que peut-on retenir aujourd'hui des activités de lutte contre la corruption engagées justement par le pôle économique et financier?
Bon, la lutte contre la corruption suit son petit bonhomme de chemin, mais nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a eu un essoufflement dans la mesure où on a cessé d'arrêter le gros poisson. Je n'accuse pas X ou Y, mais moi je me dis qu'il y a un essoufflement. Au-delà de cela, ce que nous avons remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'arrestations au niveau des mairies. Donc le maire de la commune d'Abagnaré en Tol, il y a eu le maire de Baguinda qui a été arrêté, le maire de Moutougoula, le maire de Kambila, lui, on lui accuse d'avoir détourné 93 millions. Il y a le président de l'Assemblée régionale de Kaye également, qui est au Niouf. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est une bonne chose. Parce que pendant longtemps, les maires ont cru que les mairies, c'est leur propriété privée, qui peuvent utiliser les ressources qui nous appartiennent à volonté sans être inquiétés. Donc, le fait qu'on est en train de les arrêter, de les mettre en tôle, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça permettra aux autres maires qui ne sont pas mouillés vraiment de bien se comporter. Mais ce que nous allons ajouter, c'est que jusqu'à preuve du contraire, la lutte contre la corruption n'a pas atteint son point culminant, dans la mesure où l'affaire des avions coulés au sol n'a pas été élucidée. Les 1230 milliards qui ont été débloqués par l'État pour soutenir notre armée, les 1200 milliards, on se demande où sont partis l'ensemble des sous. Donc il faut que tout cela soit élucidé pour que nous croyons et réellement à la lutte contre la corruption en République du Mali.
Alors, M. Sidibé, je vais vous donner la parole, puisque vous estimez que vous n'avez pas assez parlé. Alors, M. Koba pense qu'il y a eu un essoufflement, justement, dans la lutte contre la corruption. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Permettez-moi 10 secondes d'indiscipline pour rebondir par rapport à la situation de Macron.
Okay, d'accord. Je pense qu'on a commencé notre thématique. Okay, d'accord. On aura d'autres occasions, okay, il y aura d'autres forums.
Okay. Je peux dire que la lutte contre la corruption, c'est le processus est un peu essoufflé. Je pense que c'est trop dit, quoi. Puisque peut-être que les gens attendaient vraiment des arrestations spectaculaires, vraiment le processus de continuation des arrestations spectaculaires. Peut-être que ce processus-là s'est un peu estompé, mais toujours est-il que je pense que le processus suit son cours normal. On a vu, il y a Badou Koba l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu combien d'arrestations. Le procureur, quel est son cheval de bataille aujourd'hui? C'est les dénonciations. Il a invité tous les Maliens à dénoncer les cas de fraude qui auraient décelé ça et là. Donc, l'action de la justice, quand même, les actions de la justice sont en tout cas enclenchées sur la base des dénonciations faites par, en tout cas, les organes de contrôle et des simples citoyens qui peuvent être nous-mêmes, quoi. Donc, si nous ne dénonçons pas, je pense que l'action va s'estomper un peu. Merci. Sinon, on n'a pas forcément l'impression que la justice a rétro-pédalé. Je pense qu'ils sont animés par le même état d'esprit de lutte contre, en tout cas, la corruption.
Alors, merci beaucoup, M. Sidibé. M. Kone, Badou Escobar a parlé de gros poissons, de gros dossiers. Et au-delà de Badou, une partie importante de l'opinion publique, chaque fois qu'on parle de la lutte contre la corruption, parle justement de ceux-là, notamment l'affaire des avions. Alors, est-ce que le pôle économique et financier a la possibilité ou la capacité même de faire face à ce dossier-là aujourd'hui?
Bon, en principe, il est procureur de la République. Hein. Il peut à son niveau aussi, comme avec toutes les rumeurs qui circulent, il peut à son niveau ouvrir une enquête. Mais en même temps, il a lancé un appel. Tous ceux qui estiment qu'ils ont des éléments palpables par rapport à ces dossiers, ils peuvent aussi l'aider. Mais la lutte contre la corruption, en réalité, il ne faut pas... Ce qui est encore plus grave pour la lutte contre la corruption, c'est arrêter pour arrêter. Comme on le dit, la lutte s'est essoufflée. Il faut que les magistrats évitent d'arrêter pour arrêter. Si on arrête pour arrêter, on ne met pas la forme, on n'a pas arrêté.
Quand vous dites arrêter pour arrêter,
non, parce qu'on a l'impression aujourd'hui.
L'arrestation des maires.
Je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord. Je suis entièrement d'accord avec l'arrestation des maires. Si vous voyez aujourd'hui que le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un système de décentralisation. On est dans un processus de transfert de compétences et de transfert de ressources. Mais pourquoi vous voulez qu'on transfère nos ressources à des gens qui n'ont pas la capacité de les gérer convenablement? Tout le monde sait comment les maires se comportent dans ce pays.
Alors pourquoi vous êtes arrêté pour
arrêter? Non, arrêté pour arrêter parce qu'aujourd'hui, la population a tendance à dire que le processus s'est essoufflé. À force de dire que le processus s'est essoufflé, on risque d'avoir des formes d'arrestation qui ne vont pas spectaculaires. Et si on rentre dans ces formes d'arrestation spectaculaires, ça va être plus. Ça va aller contre la lutte contre la corruption parce qu'on va arrêter des gens, on n'aura pas quelque chose de costaud ou on ne va pas respecter les procédures pour les arrêter. Donc il faut vraiment laisser les magistrats faire leur travail calmement, consciencieusement. Et tous les Maliens qui auront fauté vont passer devant la justice. Moi, je pense que c'est ça. Mais en même temps, ce n'est pas à la seule justice de régler le problème de la lutte contre la corruption. Hein. Moi, je ne crois pas que ce soit l'appareil judiciaire. C'est vrai, l'appareil judiciaire a un rôle important en termes de sanctions. Mais en même temps, l'État doit prendre des dispositions pour mettre en place un certain nombre de processus, un certain nombre d'éléments pour qu'on aille vers une gouvernance beaucoup plus saine dans le pays.
Merci, M. Kone. Donc, on est tous d'accord qu'il y a eu beaucoup d'interpellations chez les maires, notamment. Alors, d'autres sont aussi sous mandat de dépôt. Alors, M. Koba, oui. Quelles peuvent être les conséquences, justement, de ces différentes arrestations sur le fonctionnement des mairies? On sait que les mairies représentent quand même beaucoup dans la société.
Non, ça n'aura aucune conséquence sur les mairies. Au contraire, ça va aider les mairies à se tirer d'affaire. Parce que une seule personne, un seul individu ne peut pas s'offrir ce luxe vraiment de dilapider les maigres ressources qui appartiennent aux citoyens. Donc, en prenant toutes ces dispositions, en plaçant certains maires sous mandat de dépôt, moi je pense que les juges sont en train de faire correctement leur travail. Les maires ne sont pas des mini-frétins.
Des fois, ce n'est pas seulement des maires, hein, c'est aussi des maires et des conseillers.
Je veux parler des élus. Depuis que la décentralisation a commencé, il n'y a jamais eu de contrôle au niveau des mairies. Donc, les maires ont utilisé les fonds de la mairie comme si c'était leur propriété personnelle. Il a fallu que Malick devienne ministre, que Kassougou devienne procureur. C'est vrai, dans le temps, on a arrêté Adama Sangaré. Mais ça, c'était un cas localisé. Mais dans le cas présent, vraiment, l'arrestation des maires, c'est une première. Parce que pendant longtemps, les maires ont cru qu'ils sont inamovibles. Donc cette arrestation des maires prouve d'ailleurs l'échec en partie de la décentralisation. Ce sont les démocrates, les alphas qui ont amené cette décentralisation. Et nous vivons les conséquences aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles même ça ne va pas au nord et au centre, c'est à cause de cette décentralisation mal engagée. Parce que les citoyens voient que les maigres ressources qu'ils mettent à la disposition des collectivités, ces maigres ressources sont dilapidées à tort et à travers.
Ok, monsieur Kone, il y a certains observateurs quand même qui dénoncent la procédure d'arrestation des maires, qui sont considérés selon eux, justement, comme étant aussi des officiers et des polices judiciaires. Mais est-ce qu'il y a une procédure particulière, justement, d'arrestation des maires?
Non, moi, je ne crois pas qu'il y ait une procédure particulière d'arrestation du maire. Et peut-être le procureur de la République peut arrêter le maire. Mais quand il arrête le maire, par exemple, et pour le cas, c'est un seul cas. On a vu le cas d'Adama. Il fallait peut-être se référer rapidement à la cour d'appel de Bamako pour le choix de la juridiction ou du lieu où on va le mettre en garde, comme on a dit, on va le mettre en détention. En attendant le procès et le tribunal qui peut recevoir la... Puisqu'il est police, il est officier de police judiciaire dans le district de Bamako.
En même temps, agent de police
administrative. Voilà, peut-être on peut peut-être son procès peut être piloté ailleurs, mais comme on est dans le cas, voilà, il peut être à Koulikoro pour la détention, mais comme on est dans le cas de choses, on est dans le cas de, comment on appelle le truc économique là,
le
pôle économique qui a une compétence étendue sur Bamako, Sikasso, Koulikoro, Koulikoro et Ségou. Donc, où on va l'envoyer? Ou bien on l'envoie à Mopti peut-être pour le faire sortir du district où le pôle économique est compétent, mais autant le garder ici où on peut facilement réunir tous les éléments dans l'instruction. Peut-être ne pas le faire à Bamako, peut-être le confier à d'autres personnes. Bon, je ne sais pas comment. Mais vraiment, si on veut lutter contre la corruption, laisser les gens travailler. Il n'y a pas de forme pour arrêter quelqu'un qui a fauté. Mais il ne faut pas penser qu'il a fauté d'emblée. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le procès qui va déterminer si la commune ne faute pas une faute.
Donc il est présumé innocent.
On est dans un dispositif de soupçon et on est en train de chercher à réunir les preuves contre lui. Même s'il y a des preuves palpables qui prouvent qu'on va vers sa responsabilité dans la commission des fautes.
Merci, M. Voilà. Kone. Alors, M. Sulibé, on dit que certains pensent que les gros dossiers n'ont pas encore été touchés encore par le pôle économique et financier.
Bon, comment vous voyez ça? Quel gros dossier? Quand vous dites certains pensent, qui pense que quel dossier n'a pas été enrôlé?
Oui, certains observateurs, on les voit à travers les médias.
Peut-être qu'on fait allusion.
Notamment l'affaire des avions coulés au sol, par exemple.
Je pense que le procureur s'est prononcé là-dessus. Dès sa première prise de parole, il a carrément annoncé qu'ils sont butés dans leurs actions par rapport à certains dossiers, par rapport au statut de certaines personnes qui sont impliquées, par exemple. On ne peut pas poursuivre, par exemple, un ministre ou un député comme un simple citoyen. C'est toute une procédure. Et cette procédure, elle est enclenchée ailleurs que devant souvent le procureur du pôle économique et financier. Je pense qu'il s'est prononcé là-dessus. Et par rapport à même l'affaire des armements militaires, là, je pense qu'il a trouvé le dossier classé sans suite. Je pense qu'ils ont trouvé une manière de le déclasser. Je pense, c'est ce qu'on a appris dans la presse, que le dossier a été déclassé. Sinon, il a trouvé que le dossier était classé sans suite. Donc, et après, il a même lancé un appel à témoins pour avoir des éléments solides afin de pouvoir, en tout cas, enclencher des procédures contre les personnes qui sont soupçonnées d'être mouillées dans cette histoire, quoi.
Merci, M. Sribi. Apparemment, M. Kone n'est pas d'accord avec ce que vous avancez.
Non, je suis d'accord. Mais j'ai cru qu'il y a deux affaires au niveau de l'armée. Mm-hmm. C'est-à-dire il y a le truc, l'achat des équipements militaires et des effets. Voilà. Et puis il y a le dossier des avions cloués au sol. C'est deux dossiers différents. Bon, moi je pense que c'est l'autre dossier là qui est classé sans suite. Mm-hmm. Mais le dossier des hélicos là est en cours. Mm-hmm. Ils sont en train de faire le travail dessus. Il y a de fortes chances que on puisse être beaucoup plus informé dans les jours à venir.
Alors, M. Sribi, réagissez par rapport à l'arrestation massive des maires. Est-ce que vous estimez que ça peut avoir un impact sur le fonctionnement des mairies?
Bon, sauf un impact.
Parce que généralement,
ce sont
des maires
positif.
Et des conseillers.
Non,
des
l'impact, il ne peut être que positif sur le fonctionnement des mairies. Vous pensez, ça dit l'arrestation de ces maires-là, pour moi, c'est vraiment un non-événement. Pourquoi? Je m'explique. Parce que ces maires-là, ils sont élus dans la plupart des cas avec moins de 20% de voix de leurs électeurs. Donc, ils souffrent de légitimité. Quand on enlève un maire de cette, un maire qui a été voté par sa commune à moins de 20%, quand on l'enlève, je pense que tu n'as pas enlevé un gros poisson, quoi. L'enlèvement de ces maires-là, je pense que il est vraiment prévu par la loi. La loi a prévu des délégations, je pense, spéciales.
Délégations spéciales.
Si un maire a été arrêté ou est absent pour quelque cause ou a fauté, a commis des fautes graves, je pense que le ministre de l'administration territoriale est compétent pour, en tout cas, le faire remplacer par une délégation spéciale. Je pense que leur association, on doit vraiment la expliquer dans sa juste proportion, quoi.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Sribi. Voilà. Alors, au moins 105 familles ont été contraintes, justement, de quitter le village de Kerouané pour Djema. Alors, ils disent fuir les représailles de certains membres du village qui les considèrent encore comme des esclaves. Alors, je pose cette question à vous, Badou Escoba. Alors, qu'est-ce qui justifie encore les pratiques esclavagistes dans nos sociétés, notamment les sociétés sahéliennes, et plus précisément au Mali?
Oui, dans les sociétés sahéliennes, l'esclavage, c'est un problème culturel. Vous savez, depuis des lustres, il y a la notion d'esclavage, mais que cet esclavagisme puisse perdurer. Vraiment, je pense que ça, c'est une autre réalité. Mais pour la région de Kayes, ça ne m'étonne pas. Vous savez, Kayes fait frontière, Kayes et Koulikoro, c'est deux régions qui sont frontalières de la Mauritanie. Or, nous savons tous que en Mauritanie, l'esclavage est très, très vivace. Et vous prenez spécifiquement la commune de l'ex-Niamba, c'est-à-dire la zone de Bafla, vous allez trouver que dans certains villages, si vous ne portez pas le même nom de famille que l'ensemble du village, vous êtes considéré comme des esclaves. Et récemment, Kaourou Magassa de TV5 Monde a fait un petit reportage sur la zone de Djema où il y a un certain Hamid Koulibaly qui a même porté plainte contre des esclavagistes au niveau du tribunal de Djema. Je crois que la procédure est en cours. Et dans la localité de Kremis, par exemple, on a vu un cas où on a carrément ligoté un individu, on était là à le chicoter parce que l'individu dit qu'il n'accepte pas l'esclavage et quand il est parti à Yirimane, les gens sont partis dans sa maison pour tout enlever. Et le malheur même de cet esclavage, c'est que dans ces zones-là, on empêche aux gens de fuir, on les séquestre même. Par contre, au nord, il y a l'esclavage, mais dès que tu décides de quitter la zone pour venir vers le sud, on ne t'empêche pas de venir. Donc, nous, ce que nous voudrons que les autorités vraiment prennent la mesure du danger pour que ce phénomène puisse disparaître. Nous pensons que nous sommes au XXIe siècle, l'ère n'est plus à ces notions d'esclavagisme, nous sommes à l'ère du numérique, nous ne sommes plus à l'ère de l'esclavagisme ou autre chose.
Voilà. Merci, M. Koba. Alors, je me retourne vers vous, Hassan Kone. M. Koba a mis l'accent sur la dimension ou les dimensions culturelles, justement, de l'esclavage. Est-ce que cette dimension suffit à expliquer le cas du Mali?
Moi, je pense que la dimension culturelle que les uns et les autres évoquent aujourd'hui est un prétexte fallacieux. En réalité, il faut le dire, c'est un prétexte fallacieux. Je suis convaincu que tous ceux qui évoquent ces dimensions culturelles-là, si c'est eux qui étaient mis en cause, ils n'allaient pas l'évoquer. Donc c'est parce que ça les arrange, c'est une situation qui les arrange, avoir un esclave au XXIe siècle et pour des citoyens maliens, bon, peut-être, je sais pas, et quel ego ils veulent flatter. Ils veulent flatter leur ego qu'ils ont des esclaves. Mais c'est à l'État malien de s'assumer sur cette question. Depuis 1960, il est dit par une constitution dans cette République du Mali, les Maliens naissent libres et égaux en droit.
Oui, l'article 2 de la Constitution malienne du 25 février 92.
Merci pour la précision. Donc c'est à l'État de s'assumer. En principe, il n'y a pas d'esclaves au Mali. Et s'il y a des citoyens maliens qui souffrent de fait d'esclavagisme, l'État malien doit s'assumer. Et malheureusement, la résurgence de ce phénomène dans la région de Kayes, on a senti un véritable déni de justice. L'État malien refuse de rendre justice à des citoyens
avant
maliens.
D'arriver à la responsabilité, les raisons, okay. Les raisons d'abord.
Non, il n'y a pas de raison valable. C'est des raisons économiques, des raisons d'intérêt. Ça fait plaisir à tout le monde que tu aies des individus qui aillent cultiver ton champ. Si le jus qu'ils ne vont pas cultiver dans ton champ, ils doivent te payer 1000 francs par personne. Voilà, c'est des phénomènes comme ça. Ce n'est que des phénomènes, c'est des petits intérêts que les gens préservent. Quand on nous dit Angalada, que c'est culturel, en quoi c'est culturel l'esclavage au XXIe siècle au Mali?
Mais il paraît que certains acceptent quand même, sont même d'accord. Hein,
je n'ai aucun problème contre cela. Situation. Quand quelqu'un accepte d'être esclave, laissez-le mourir dans l'esclavage. Mais lorsque quelqu'un lève le petit doigt pour dire que je ne suis pas esclave de quelqu'un, il ne faut pas le brimer.
Alors, M. Sidibé, que pensez-vous justement de cette question, notamment le cas de ceux qui ont été obligés justement de quitter leur localité kérouanais, je précise, pour Djema.
Ok, ceux qui ont été obligés de quitter kérouanais pour Djema ne l'ont pas fait comme ça. Ce n'est pas venu ex nihilo, non. Parce que c'est l'action d'une association qui a, en tout cas, déclenché une grande... opération d'envergure, si vous voulez, de sensibilisation de ces personnes dites entre guillemets esclaves qui sont dans ces localités-là.
Vous dites entre guillemets esclaves, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette qualification.
Puisque Hassan Kone l'a rappelé tout à l'heure, notre constitution n'a jamais admis, si vous voulez, la pratique de l'esclavage. On pense qu'au Mali, la pratique d'esclavage n'est pas une réalité, n'est pas quelque chose qui doit exister au Mali, vu la constitution. Si la constitution elle est bien respectée par tous les Maliens, est-ce que ce qui se passe dans la région de Kayes est effectivement de l'esclavage? Je pense qu'il faut essayer de définir la notion d'esclavage. c'est quoi un esclave? C'est quoi la pratique de l'esclavage? Je pense que on doit d'abord commencer à définir ces notions. C'est toujours est-il qu'il est quand même vrai que dans cette partie du Mali, comme dans d'autres parties du Mali, il y a quand même des gens qui ont continué à faire perdurer une pratique quand même qui est assimilable. C'est pourquoi on dit esclavage et des pratiques assimilées, des pratiques qui sont assimilables à l'esclavage. Il y a des gens qui sont appelés esclaves et il y a des gens qui sont appelés maîtres. Je pense que la pratique tire son origine dans les coutumes de ces localités-là, quoi. Quand vous écoutez les religieux, ils disent carrément que ce qui se passe au niveau de la région de Kayes, on ne peut pas l'appeler esclavage.
Alors, comment vous l'appelez justement? Puisque vous ne partagez pas justement l'idée, hein, cette idée d'esclavage par rapport à ce qui se passe.
Ce n'est pas que je ne partage pas. Moi, je suis
confus.
Comment
vous qualifiez ce qui
non,
se passait?
Non, je suis parce que moi, j'ai eu la chance un peu d'écouter, en tout cas, certaines autorités coutumières de ces régions-là, et j'ai écouté certaines personnes qui sont appelées esclaves et les pratiques qu'ils ont eu à subir. Est-ce que ces pratiques-là sont les conséquences de l'esclavage, oui ou non? Badou l'a rappelé tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont même pas prêts à se défaire de cette situation. Quand vous les demandez de se libérer de cette situation, ils vont te dire non.
Alors merci beaucoup. Donc, M. Kone, Sylvain n'est pas encore d'accord.
Non, il y a l'aspect contrainte qui est là. L'esclavage, il y a l'aspect contrainte.
Mais parce que les victimes eux-mêmes,
c'est quand même, quand vous écoutez d'autres personnes, ils se plaisent dans cette situation. Donc, il y a l'aspect contrainte qui n'existe pas.
D'accord, écoutons.
Je voulais qu'on se comprenne sur la question. C'est vrai que ceux qui sont en train de pratiquer ces faits qu'on assimile à l'esclavage estiment que c'est leur lada, que c'est leur culture, c'est leur coutume.
Mais est-ce que ça justifie les pratiques?
Ça ne devrait pas justifier ces pratiques-là dans le Mali d'aujourd'hui. Parce qu'en 1960, l'État malien, en toute responsabilité, a pris une constitution où les citoyens naissent libres et égaux en droit. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'esclavage sur le territoire malien. Si avant 60, ça existait, ces pratiques coutumières-là, après 60, ça ne doit plus exister. Tous les citoyens maliens sont libres et égaux en droit. Maintenant, quand quelqu'un accepte, au nom de la culture, de la coutume, cette pratique-là, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Mais du moment qu'un individu estime qu'il ne veut plus être indexé comme esclave de quelqu'un, il ne peut plus, pendant l'hivernage, prendre un ou deux jours pour aller cultiver gratuitement dans le champ de quelqu'un au détriment de son champ. Ses femmes, ses épouses ne peuvent plus aller faire la corvée chez quelqu'un gratuitement pendant les périodes de fête. Ne peuvent pas préparer gratuitement pendant les périodes de fête pour d'autres au moment où leurs femmes s'habillent et se maquillent pour la fête. Mais c'est leur droit de ne pas le faire puisque la loi malienne leur permet de refuser de le faire.
Merci Hassan.
Et c'est à l'État malien de les protéger. Alors, leur refus.
Justement, on va parler de responsabilité tout à l'heure, M. Koba. Où est-ce qu'on peut situer la responsabilité de cette situation? Hassan estime que les textes, quand même, interdisent la pratique. M. Sylvie estime qu'il n'y a même pas d'esclavage. En tout cas, il ne peut pas qualifier d'esclavage ce qui se passe.
Non, je me pose la question.
Est-ce qu'on peut dire
que vous ne confirmez pas aujourd'hui que ce qui se passe, c'est de l'esclavage? Voilà.
Sinon, je ne cautionne pas les pratiques qui se passent dans la région de Kayes.
Ok, ça marche.
Vous avez rappelé l'article 2 de la Constitution du 25 février 1990. Donc, cet article dit clairement que toute personne qui se livre à de telles pratiques doit être punie par la loi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de commentaire là-dessus. Le Mali est un État indépendant. Tous les citoyens sont égaux. Ceux qui font ces pratiques doivent être condamnés et jetés en prison. Pendant la colonisation, on nous considérait comme des indigènes. C'était le régime de l'indigène.
Mais la responsabilité, où est-ce que vous situez la responsabilité?
La responsabilité, c'est au niveau de l'État. C'est l'État qui ne s'assume pas. Et l'État doit s'assumer pour que cette barbarie
cesse. Qu'est-ce que l'État doit faire, selon toi, aujourd'hui?
Malgré
l'existence des textes.
L'État doit punir celui qui sort de sa bouche le terme esclavage. L'État doit couper sa langue. Vous m'excusez. L'État doit carrément couper sa langue. Parce que ça, on ne doit même pas parler de cela. Nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes nés de la même façon. Nous allons mourir de la même façon. Vraiment, que l'État prenne ses responsabilités. Qu'on parle d'esclavage même, ça fait tellement mal que vraiment nous pensons qu'il est temps qu'on n'en parle plus à la République du Mali. Moi, je ne. Mais c'est insensé. moi aller travailler gratuitement pour quelqu'un parce qu'il est mon maître, je vais le faire pour quoi? Il n'a jamais été mon maître, je ne le ferai jamais.
Alors, si quelqu'un, monsieur Sidibé, le Mali a signé,
si d'abord quelqu'un n'a pas d'esclavage, je lui tranche la gorge.
Merci Koba. Le Mali a signé quand même des conventions qui luttent contre, qui interdit justement à l'esclavage, alors qu'on a un projet de loi qui dort encore au niveau de l'Assemblée nationale.
Voilà. Où se situe le blocage? Quand vous dites que qu'est-ce que l'État doit faire, Badou l'a dit, l'État doit prendre une loi criminalisant la pratique de l'esclavage au Mali. Les juges, quand un esclave, quand même une personne qui a subi, si vous voulez, l'esclavage, quand il se plaint, elle se plaint devant un juge aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de se faire justice parce qu'il n'y a aucune loi qui prévoit
la
criminalisation de cette pratique.
Merci, ça sera les mots de la fin. C'est donc la fin de ce forum de la presse. Justement, nous étions avec Oumar Sidibé, groupe Renouveau, Hassan Kone, site d'information notrenation.com, Badou Escobar du journal Carrefour. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara, à la mise en nom de Salim Djouara, à la coordination Issa Fakaba Sissoko, à la présentation Ibrahima Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.